Bonjour à toutes, bonjour à tous. Savez-vous qu'à la fin de la semaine, nous fêterons les 263 ans de Mozart, qui était né un 27 janvier en l'an 1756. À 14 ans, à Vérone, le jeune Wolfgang obtient son deuxième prénom. Ce sera Amadeus, transcription italienne de Gottlieb. Ainsi naquit Mozart. Amadeus, c'est-à-dire l'amant et l'aimé de Dieu, à qui Mozart n'hésite pas de s'adresser directement.
Messieurs, bonjour.
Bonjour, Majesté.
Bien. Quel ordre du jour ce matin?
Votre Majesté, Herr Mozart.
Quoi, Herr Mozart?
Il est là.
Divertissons-nous un peu.
Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Quel accueil. Vous prenez la parole sur le Rex du Requiem de Mozart.
Oui, mais c'est très funèbre.
N'est-ce pas? Je parlais de sa naissance, on commence avec la fin.
On vient à peine de parler de sa naissance, qu'on est déjà à la veille de sa mort.
Savez-vous
pourquoi? Vous voyez comme la vie est courte.
Justement, et bien parce que précisément Mozart, et vous le rappelez bien dans le livre que vous avez écrit sur Mozart, qui s'appelle Mystérieux Mozart, Mozart était selon sa propre formule, l'ami de la mort.
Oui,
Quelle sagesse!
La mort est notre meilleur ami, écrit-il à son père. Ce qui est une allusion très claire, enfin soulignée par les spécialistes, de l'appartenance à la maçonnerie, qui est une initiation à la mort et donc au dépassement de la condition mortelle. Ce que raconte Mozart de façon très claire, très émouvante, admirable, dans la flûte enchantée, puisque vous avez quand même des allusions très très précises au fait que un couple, c'est incroyable, un couple, un homme et une femme, figurez-vous, ça a existé, oui, va traverser par la seule force de la musique la sombre nuit de la mort. Hein, c'est dit, c'est le texte. Mozart faisait très attention à ses livrets. Et donc, il faut voir la chose suivante, c'est que l'obstacle qui consiste à traverser la mort, il y a quelqu'un qui s'y oppose, de toutes ses forces admirables, c'est tout simplement la reine de la nuit. La reine de la nuit veut empêcher sa fille de franchir le pas de l'amour qui consiste à passer à travers la mort, les épreuves de la mort. Et donc c'est pour ça qu'elle se bat constamment avec des cris admirables pour récupérer sa fille et donc pour assassiner Sarastro, si vous voulez, qui garde sa fille prisonnière. Elle veut récupérer sa fille, la reine de la nuit, pour la mettre dans son royaume. Son royaume, c'est donc la nuit. Et donc, il faut aller dans la lumière. Voilà, c'est ça que m'inspire cette phrase étrange, formidable, de Mozart dans une lettre à son père.
Du 4 avril 1787, il écrit « Comme la mort, si l'on considère bien les choses, est l'ultime étape de notre vie. »
Si l'on considère bien les choses.
Voilà. Vous allez nous dire dans un instant ce que ça veut dire. « Je me suis familiarisé depuis quelque temps avec ce véritable et meilleur ami de l'homme, de sorte que son image non seulement n'a pour moi plus rien d'effrayant, mais est plutôt quelque chose de rassurant et de consolateur. Et je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur, vous me comprenez, de le découvrir comme clé de notre véritable félicité. Je ne vais jamais me coucher sans penser, quel que soit mon jeune âge, que je ne serai peut-être plus le lendemain. Et personne parmi tous ceux qui me connaissent ne peut dire que je sois d'un naturel chagrin ou triste. Pour cette félicité, je remercie tous les jours mon Créateur et la souhaite de tout cœur à tous mes semblables. » On y entend deux choses, Philippe Sauer.
Oui.
La sagesse, elle est face à cette mort qui arrive et qui, dit-il, est le meilleur ami de l'homme. Mais aussi,
la meilleure amie,
il dit le meilleur ami, mais bon.
Oui, en allemand, c'est
mais aussi la présence de Dieu qu'il veut remercier. C'est-à-dire, d'un côté, si on prend des éléments plus biographiques, et vous allez nous dire, il y a peut-être une dimension maçonnique, mais il y a quand même aussi cette certitude qu'un Dieu est là et l'attendra.
Bien sûr. Tout ça est tout à fait prévu dans ce que Mozart représente à l'époque de très, très étonnant. C'est-à-dire, vous avez les illuminés de Bavière. Mozart est un illuministe, comme le sera d'ailleurs Rimbaud, qui appelle un de ses textes majeurs « Illumination
hein, ». Qu'est-ce que c'est qu'un illuministe ?
Un illuministe, chère madame, c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir reçu directement de Dieu, si vous l'appelez comme ça, en tout cas, cette force puissante, une révélation personnelle qui l'a illuminé. Et donc il va se conduire en fonction de cette illumination. Donc, c'est le cas de Mozart, de toute évidence, et c'est ce qu'il dit dans cette lettre, de façon très, très claire. Autrement dit, la mort n'est rien par rapport à l'illumination qu'on a reçue personnellement. Voilà. Alors, vous pouvez mettre Dieu, c'est le terme qu'on employait forcément à l'époque. Mozart est un bon catholique, il a fait des messes, il sait très bien de quoi il s'agit, mais enfin, il est complètement décalé par rapport à ça.
Oui, mais
il a été mis à la porte par un archevêque.
Mais c'est pas la même chose de se demander si Mozart croit en Dieu ou si, finalement, il tient Dieu pour comme un
alibi. Il croit en son Dieu, en tout cas.
Parce que vous posez la question dans votre livre, vous dites, peut-on aimer Mozart sans croire en Dieu?
Bien sûr, c'est pas nécessaire de croire en Dieu. Encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle de Dieu.
Et de Mozart, parce que ça veut dire que vous tenez Mozart qui est quelque chose de divin dans la musique de Mozart.
Écoutez, dites-nous. Vous avez une chanteuse admirable, indépassable, qui s'appelle Elisabeth Schwarzkopf. Est-ce que vous avez écouté les cours que donnait la vieille Schwarzkopf à des jeunes chanteuses? À un moment donné, elle fait répéter à une jeune chanteuse de talent une messe, la messe de Mozart. Bon, très précisément, l'incarnatus, et incarnatus est. C'est l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Il faut se renseigner un petit peu pour savoir de quoi il s'agit. Et la fille chante. Schwarzkopf l'interrompt constamment. Et lui dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de chanter? Vous chantez l'incarnation de Dieu dans la Vierge Marie. Voilà, il faut se renseigner un petit peu, parce que Mozart connaissait ça par cœur. Et voilà, incarnatus est. Alors donc, vous pouvez évidemment célébrer votre propre naissance, comme le fait Mozart, qui à ce moment-là célèbre sa naissance comme s'il était le Fils de Dieu.
Donc lui-même se tenait pour le Fils de Dieu.
Je viens de vous dire qu'il avait une illumination dont il parle tout le temps, bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'il est le Fils de Dieu. Dieu peut lui parler sans qu'il soit son fils.
Mais ça lui permet de comprendre toute cette fermentation à propos de Dieu qui a eu lieu, dont plus personne ne parle, à tort, et qui est d'autant plus intéressante qu'elle est en train de s'effondrer, de disparaître complètement. Et avec elle, une civilisation tout entière. Allez en Italie, nous allons en Italie ensemble, et je vous montre Dieu dans toutes les églises d'Italie.
Et vous pensez que lorsqu'une civilisation commence à ne plus parler de Dieu, ne plus croire en Dieu, elle s'effondre ?
C'est fini, bien sûr, vous savez. C'est fini. On entre dans une autre ère. Oh, alors Dieu, c'est abstrait. Oh, finalement, in God we trust.
Mais quand on écoute la musique de Mozart,
in God we trust, dit le dollar.
Quand on écoute la musique de Mozart, est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu ? Est-ce que la musique de Mozart n'est-elle pas elle-même une expression peut-être divine, peut-être mystique, peut-être illuminée, qui suffit en elle-même ?
Mais moi, je ne crois pas en Dieu comme d'autres personnes pourraient croire en Dieu. Voyez.
C'est-à-dire, non.
Non, il y a un Dieu par personne qui se doute qu'il a quelque chose à voir avec sa propre divinité. Ce que Mozart fait tout le temps, il est sûr de sa propre divinité, non ? Le divin Mozart. Vous savez que quand on appelle quelqu'un divin, c'est où c'est absolument inaccessible, le divin petit Mozart admirable, ou alors vous avez un monstre, c'est le divin marquis. C'est ça. Et vous pouvez faire l'expérience suivante, vous prenez n'importe quel homme, pas n'importe quel, mais enfin un opéra de Mozart, Don Juan par exemple, et vous mettez ça en lisant un texte de Sade, je l'ai fait à la radio, et ça fait des, il y a eu des protestations, ça a été vite retiré de l'antenne, hein, je vous assure.
Bon, on va être moins subversif
alors,
ce matin.
Alors, ça c'est le diable.
Alors, le diable.
Oh, mais le diable est là.
Entre le Dieu et le diable, il y a autre chose, la connaissance que Mozart avait peut-être de son propre génie, la certitude de son génie, l'orgueilleuse certitude qu'il en avait, ne l'empêche pas d'être très lucide sur les jeux de l'amour. Et c'est peut-être le sens de l'opéra Così fan tutte, 1790, dont voici un extrait avec la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, dont vous parliez, Philippe Solers.
Magnifique, merci.
Vergogna sur France Culture, les chemins de la philosophie, la voix d'Elisabeth Schwarzkopf qui chante Despina, Così fan tutte, Philippe Soler. C'est l'un de vos opéras préférés de Mozart. Pourquoi et pourquoi vous dites-vous que c'est une leçon de lucidité sur l'amour ?
Parce que Mozart veut prouver quelque chose à travers le personnage essentiel qui est Antonio, n'est-ce pas ? Prouver quelque chose assez naïf que sont les bons hommes qui sont amoureux des femmes, semble-t-il. Ils n'arrêtent pas de crier leur amour et de penser que les femmes sont fidèles. Mmh. Ils sont d'une telle naïveté, d'une telle crédulité, d'une telle infantilité que Antonio veut leur donner une leçon de philosophie. Alors voilà, vous avez de femmes que vous adorez et d'ailleurs elles vous adorent sûrement. Sûrement. D'ailleurs, quand on les voit chanter, admirable Schwarzkopf, Fjordili, Gidora Bell, là, mon Dieu, elles ont les portraits sur elles de leur amant. Voilà. Elles sont en plein amour. Donc, la fidélité doit être totale entre les. Alors, la leçon de philosophie consiste à dire aux naïfs, bons hommes, qui sont toujours en deçà de la main et de la ruse féminine, et de la, voilà, de così fan tutte, je vais vous démontrer quelque chose. Et donc, à ce moment-là, les amoureux se déguisent et vont faire une cour ardente à ces femmes fidèles. Alors, vont-elles trébucher? Elles hésitent.
Parce que le but est de montrer que la fidélité des femmes n'existe pas, de la part d'Alfonso.
Elle existe, mais elle est fragile. C'est-à-dire qu'il suffit d'employer les moyens qu'il faut. Bon, donc, non, des moyens rusés, pas des prédateurs, il ne s'agit pas de les violer, comme on est en plein MeToo, on devrait interdire à la fois Don Giovanni de Mozart et Così fan tutte. D'ailleurs, comme on pense interdire ou réécrire Carmen de Bizet, vous savez, tout ça.
Même si Don Giovanni se fait quand même punir à la fin, voilà, c'est, en aucun cas, c'est une célébration du comportement de Don Giovanni.
Oui, d'accord. Mais enfin, voilà. Donc,
les deux jeunes hommes se déguisent.
Elles vont céder, et on va le démontrer, voilà. Donc, les couples s'échangent, n'est-ce pas, hein, et après ça, on rétablit l'ordre et on bénit tout ça, de façon qui consiste à dire c'est la fin de la leçon de philosophie. Ce qui est très étonnant, c'est un opéra absolument splendide que Mozart écrit à la fin de sa vie, 1790. Là, il est très mal, il est plutôt malade, il a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Il joue au jeu, etc. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il, par exemple, l'invitation qu'il fait à Joseph Haydn de venir chez lui le lendemain, il y aura une répétition dans mon appartement de Così fan tutte. Et cher ami, pourriez-vous être présent? L'amitié entre ces deux grands génies est absolument bouleversante. Ça n'existe pratiquement dans aucun autre domaine. Haydn, lorsqu'on lui demandait, lorsqu'il était à Londres, mais pourquoi n'écrivez-vous pas de quintettes? Oh, dit non, c'est après la mort de Mozart. Les quintettes, c'est Mozart. Moi, c'est les quatuors. Et en effet, les quatuors de Haydn sont des merveilles. Et vous savez comment Mozart appelait Haydn et en lui dédiant ses propres quatuors, papa, n'est-ce pas, c'est le père. C'est une relation d'amitié entre père et fils, Haydn et Mozart. C'est unique dans l'histoire de l'art.
Mozart accordait beaucoup d'importance à son amitié avec Haydn, mais aussi à l'amour et pas que dans l'opéra, puisque Così fan tutte est une mise en scène de cette mise à l'épreuve de l'amour dans sa propre vie. Et ça, vous revenez beaucoup sur des considérations biographiques dans votre livre, Philippe Solers, hein, lié à Mozart et son amour pour cette Constance, cette femme qu'il adore, à qui il écrit des lettres magnifiques dont il ne peut pas se passer, mais avec qui il a une relation finalement très tumultueuse.
Stanzi, c'est ainsi qu'il l'appelle. Chère et adorable petite femme, comme c'est, et elle l'appelle Wolfi, c'est le diminutif de Wolfgang. Donc il aime beaucoup sa petite femme, ce qui ne doit pas vous cacher qu'il a eu par ailleurs une vie peut-être assez dissolue, qui lui a donné une inspiration précise. Rappelez-vous le film de Forman, où il y a cette scène magnifique, Constance n'est pas là. Elle est au zoo, enfin elle est peut-être infidèle, on a beaucoup romancé ça.
Elle-même n'était pas non plus un modèle de fidélité.
Oui, mais enfin bon, une chère et excellente petite femme. Voilà.
C'est ainsi qu'il l'appelait.
Voilà, et alors il rentre, il neige beaucoup, Et il rentre le matin très tôt, après une nuit de fête. La mère de Constance est là, sa belle-mère. Elle est là, elle l'attend dans l'appartement. Et elle commence à lui faire une scène. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça.
Stasi!
C'est moi qui ai fait ça. Je l'ai fait partir et j'en suis fière. Quitte la maison immédiatement. Hiche le camp, Constance, et emmène l'enfant. Je te paye tout. Va dans une ville d'eau et refais-toi une santé. J'ai reçu un choc. Un choc épouvantable en voyant Constance. Je n'en revenais pas, ma fille, la pauvre, dans cet état. Vous êtes un monstre. Personne n'existe sauf vous, n'est-ce pas? Vous et votre musique. Oh, je l'avais prévenu. Épouse un homme, un vrai, n'épouse pas un enfant. Si tu te maries avec lui, tu n'auras pas un pot pour pisser. Espèce de sale égoïste! Un égoïste, voilà ce que vous êtes! Un égoïste, voilà tout! Vous m'entendez?
Mozart, en somme, pourrait parler ainsi. Je ne suis ni monarchiste, ni jacobin, ni républicain, ni démocrate, ni anarchiste, ni socialiste, ni communiste, ni fasciste, ni nazi, ni raciste, ni antiraciste, ni antimondialiste. Je ne suis ni classique, ni moderne, ni postmoderne, ni marxiste, ni freudien, ni surréaliste, ni existentialiste. À la rigueur, vous pouvez me présenter comme singulier universel, c'est-à-dire catholique dans un sens très particulier, ou encore comme franc-maçon d'une façon très personnelle, c'est-à-dire universel, singulier. Vous voyez là une contradiction? Pas moi. En vérité, je suis ce que j'ai été, ma musique. Je serai ce que je serai, ma musique. Je suis uniquement ce que je suis, cette musique. Et voici donc l'extrait du film de Milos Forman, Amadeus, dont vous parliez, Philippe Soler, sur lequel j'ai lu un extrait de votre texte qui parlait en fait à la place de Mozart. Vous le qualifiez de singulier universel, c'est ce qui lui conviendrait le mieux?
Singulier, c'est évident. Universel, c'est le. Oui, c'est pour ça que j'emploie le mot catholique, qui en grec veut dire universel, tout simplement, catholicos. Voilà. Donc, c'est un franc-maçon singulier et un catholique très singulier. Et là-dessus, c'est sa musique qui compte. Bon, il n'est que sa musique. Il s'est battu pour sa musique toute sa vie, vous savez. Jusqu'à Mozart, les musiciens étaient entretenus par la cour ou l'église. Le premier a décidé qu'il va être tout à fait indépendant jusqu'à produire des souscriptions pour ses quintettes, etc., par exemple, ou pour ses concerts de piano quand il joue. C'est Mozart. C'est le premier révolutionnaire, on peut dire, à cause de tout ça. Le premier révolutionnaire, d'ailleurs la révolution arrive assez vite, dont il est porteur, en fait, par « Viva la libertà hein, !» Voilà. Donc, c'est le premier à être indépendant. Il travaille pour son propre compte, ce qui va le mettre dans des situations parfois extrêmement dangereuses, parce que comme il joue au jeu, il a besoin d'argent. Mais il est indépendant. Il écrit ce qu'il veut. Personne ne peut lui dicter ce qu'il a à écrire. Ni l'Église, ni la cour. Voilà. Donc les livrets, il fait très attention. Et ça, c'est très révolutionnaire, ça a été très mal pris. Qu'est-ce que vous voyez dans les Noces de Figaro? Les gens qui sont dans la salle, ils sont représentés sur scène. Qu'est-ce que vous voyez dans Don Juan? La même chose, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Et La Flûte Enchantée est un opéra populaire, magnifique, qui a eu un succès fou. Et puis la Clémence de Titus, écrite très vite à la fin. Bon, tout ça, ce sont chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre. On ne peut pas comprendre comment il a pu écrire autant de chefs-d'œuvre en si peu de temps.
Plus de 600
Pourquoi
en 35
Parce
ans.
Parce que l'illumination qui le conduit est constante. Voilà, il est très rapide. Et en plus, il a une mémoire absolument extraordinaire. Ça commencerait tôt. Hein, à 5-6 ans, Mozart est super doux et il enregistre tout. Il peut vous recopier de mémoire un air qu'il a entendu à l'église, par exemple.
Voilà. Alors pourquoi Mozart serait-il plus universel qu'un autre compositeur? Car après tout, c'est la musique qui est universelle et pas forcément le compositeur.
Non, il n'y a pas la musique. Il y a la musique dans l'histoire. Mmh. Avant Mozart, c'est tout à fait différent. Il y a de très grands musiciens, Bach, Handel, voilà. Oui, mais lui, il invente encore une fois quelque chose. Il est sans foi ni loi, sauf sa foi et sa loi.
La tienne. Mais alors justement, peut-être pour comprendre ce que...
Et après, c'est fini.
Pourquoi universel ?
Parce que Beethoven, et alors après, c'est la catastrophe de Wagner, si vous voulez. Voilà.
Pourquoi universel ? Un élément de réponse qui serait de dire que finalement, c'est parce qu'il s'adresse aussi bien aux mélomanes qu'aux classes les plus populaires. C'est en tout cas la thèse que soutient Frédéric Ledéon, chef d'orchestre et producteur sur France Musique. Écoutez.
Il était tout à fait fier qu'on chante des airs de La Flûte Enchantée dans la rue. Il était très content et il disait, quand il écrivait ses concertos de piano, il écrit à son père, il faut que les amateurs puissent se réjouir de ce concerto, les amateurs formés, les mélomanes, mais aussi que les cochers puissent chanter les thèmes. Donc il savait bien qu'on pouvait à la fois être populaire et puis écrire de manière extrêmement riche et subtile. Il voulait les deux, et c'est peut-être parce qu'il a les deux justement qui restent. Mais ce qui fait qu'il a touché le public tout de suite, c'est parce qu'il a le sens des mélodies qu'on retient, mais une fois qu'on a le truc, il faut encore avoir le talent, ou je risque le mot de génie, pour que ce système fonctionne vraiment. Alors il avait les deux, il avait le fait qu'on pouvait siffler ses airs dans la rue, et puis en même temps, les plus grands connaisseurs, encore aujourd'hui, peuvent dire que c'est une écriture absolument sublime.
Frédéric Ledéon au micro de Thomas Beau. Comment expliquez-vous, Philippe Solers, que s'il touchait tant le public, et tout public confondu, si l'on sifflait ses airs dans la rue, Mozart ait passé sa vie criblé de dettes?
C'est à Prague qu'il a été le plus célèbre. C'est la société de Vienne qui l'a conduit petit à petit à être complètement décalé, refoulé, d'où l'emploi d'un grand opéra populaire. C'est un révolutionnaire, donc. Il est à la fois simple et très compliqué et divin, d'une certaine façon. Donc, Dieu, pour reprendre ça, Dieu est très simple. Et en même temps, tout à fait complexe et infini. C'est son cas. Il est unique. J'insiste sur le côté révolutionnaire de Mozart. Avant, c'est pas comme ça que ça se passe. Et après, non plus. C'est fini. Voilà. C'est lui et lui seul. C'est pour ça que nous sommes là en train d'en parler, encore aujourd'hui, sauf erreur de ma part en 2019, ce qui est quand même extravagant par rapport à quelqu'un qui est mort en 1780.
Mais d'où le sens de ma question. Une telle postérité, un tel succès, y compris au moment où il écrivait, n'explique pas le décalage qu'il y avait avec sa propre existence, le fait qu'il n'ait pas eu la reconnaissance de la société de la musique, qu'il était exclu de Vienne, etc.
Il est très en avance, c'est tout.
Mais pas tant que ça, puisque les gens l'adorent et l'admirent et écoutent ses opéras.
Non, c'est... Oui,
enfin, c'est-à-dire que le public est prêt à le recevoir.
À Prague, pas à Vienne. À Vienne, c'est...
Pourquoi
c'est
qu'est-ce qui se passe à Vienne?
Parce que à Vienne, c'est beaucoup plus conventionnel, c'est beaucoup plus conformiste. C'est à Prague. Mozart est un révolutionnaire qui n'est pas reçu. Nul n'est prophète en son pays. Et donc, non. Il est mort dans des conditions d'ailleurs très obscures. Et si vous voulez trouver la tombe de Mozart, vous la chercherez en vain, comme je le raconte dans mon livre. On ne sait pas très bien où il est. Il a été jeté dans une fosse commune. Ce qui est quand même un curieux phénomène. Beethoven n'aimait pas les opéras de Mozart. Il trouvait Don Juan absolument impossible. D'où le fait qu'il ait écrit un très mauvais opéra qui s'appelle Fidelio. Et après ça, Wagner, alors, déteste encore plus Mozart. Tout le monde va détester Mozart. Mais vous savez que la haine peut succéder à un amour naissant. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve tous les jours dans l'actualité.
À quoi pensez-vous ?
À la énamoration dont le président de la République actuelle est l'objet. C'est-à-dire de l'amour qui tourne à la haine. C'est très rapide.
Vous le comparez à Mozart ?
Ah non ! Ah non !
On va laisser la parole à Nietzsche.
Les partitions du président ne sont pas lisables.
On va laisser la parole à Nietzsche à travers la voix de la comédienne Shemsoda. Nietzsche qui compare le travail de Beethoven à celui de Mozart.
Beethoven et Mozart. La musique de Beethoven apparaît souvent comme une contemplation profondément émue à l'audition d'un morceau que l'on croyait perdu depuis longtemps. C'est l'innocence dans les sons. Une musique au sujet de la musique. La chanson du mendiant ou de l'enfant des rues, les motifs traînants des Italiens en voyage, les airs de danse des auberges de village ou des nuits de carnaval. Voilà les sources d'inspiration où Beethoven découvre ses mélodies. Il les amasse, comme une abeille, en saisissant ça et là une note ou une courte suite. Ce sont pour lui des réminiscences transfigurées d'un monde meilleur, un peu comme Platon imaginait ses idées. Mozart est dans un rapport tout différent avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en entendant de la musique, mais en regardant la vie la plus mouvementée des contrées méridionales. Il rêvait toujours de l'Italie lorsqu'il n'y était pas.
Un peu comme Platon imaginait ses idées, écrit Nietzsche dans Humain trop humain, ici le voyageur et son ombre, ce sera le sujet de l'émission Demain avec André Tuboeuf qui tient les opéras de Mozart comme étant l'expression de la philosophie de Platon. Ça, ce sera demain avec vous aujourd'hui, Philippe Soler, cette comparaison entre Beethoven et Mozart faite par Nietzsche. Alors, c'est très difficile de distinguer, de dire avec des mots, enfin déjà de parler de musique en général, et précisément de dire ce qui distingue la musique de Beethoven de celle de Mozart. Nietzsche nous dit, bien Beethoven, c'est une musique au sujet de la musique, alors que Mozart est dans un rapport tout différent avec ses mélodies. Comment vous décrivez-vous cette différence ?
Tout ça ne veut pas dire grand-chose si on oublie l'histoire avec des dates précises.
Dites-moi.
Voilà. Mozart est un révolutionnaire qui va porter la révolution, qui elle-même va avoir des difficultés avec la terreur, avec ensuite le premier empire, après avec une république qui tarde, puis un second empire en France, hein, je parle pas. Beethoven est aussi un révolutionnaire, il a compris que c'était Mozart qui était en train d'amener la révolution, la grande révolution. La grande révolution, c'est la française, il n'y en a pas eu d'autre. Tout ça était une falsification générale qui continue, d'ailleurs, peu importe. Beethoven, écoutez, il commence par dédier une de ses symphonies à Bonaparte, qui est le porteur quand même de la Révolution française en Europe. Voilà. Et puis, vous savez très bien qu'il a, lorsque l'autre est devenu de général de génial, un empereur qui commence à être tout à fait empereur, alors pour le coup, Beethoven raye sa dédicace, raye de rage. Hein, voilà, donc, Beethoven a fait évidemment une très grande musique, symphonie, etc. L'hymne à la joie nous permet d'entrer directement au Panthéon et de valser parmi les morts avec les présidents, le président Mitterrand, etc. Bon, tout ça. Mais vous voyez bien qu'on est très très loin de Mozart. Très loin. C'est très bruyant, c'est très formidable. Il n'y a aucun problème. Mais, bon. Mais déjà, on s'achemine vers quelque chose qui représente un peu l'époque, qui est lourde. Et alors, elle va devenir monstrueusement lourde avec Bayreuth et Wagner et la polémique avec Nietzsche qui va, lui, se rendre compte, le seul lucide, qui va se rendre compte que tout ça va à la catastrophe. Alors, ça s'appelle le cas Wagner, par Monsieur Frédéric Nietzsche, qui adorait évidemment Mozart.
Et qui a commencé par adorer Wagner avant de lui en vouloir. Mais dans ce texte, il compare Mozart à finalement un Italien. Il dit que Mozart n'était pas du tout allemand ni autrichien. Il avait dans le tempérament, il était italien. Au fond, ce que dit Nietzsche et ce que vous avez l'air de dire, c'est que le rapport de ces compositeurs à leur musique est aussi une affaire de caractère. C'est la façon dont eux-mêmes mettaient leurs opinions, soit politiques, soit leur personnalité dans leur musique, qui détermine ensuite la tonalité de la musique.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Mozart était un... évidemment, vous connaissez l'italien dans toutes ses nuances et ses raffinements. N'empêche qu'il a envisagé et il l'a fait d'écrire un opéra en allemand. Mm-hmm. Hein, il l'a fait. Le seul pays qu'il trouve absolument dépourvu de musique, et lorsqu'il est à Paris, il le dit d'une façon extrêmement cinglante, d'autant plus qu'on le fait attendre avant de jouer sur un piano désaccordé, les aristocrates sont nuls, et donc la révolution aura lieu. Et oui, pour cette raison même, parce qu'il n'y a pas de musique, et l'orchestre de Paris est incapable de lever l'archet comme il faut, etc. Il est complètement épouvanté, et il dit... C'est impossible, ça va être impossible d'écrire un opéra en français. Ce qui est un peu vrai, parce que si vous prenez la musique française, dont au fond, à part quelques grandes exceptions, on pourrait très bien se passer si on a l'italienne, l'allemande et l'anglaise, voilà probablement quelque chose qu'il faut méditer pour savoir pourquoi le peuple français s'est enfoncé dans une surdité de plus en plus profonde, malgré sa grande révolution portée par Mozart.
Vous avez une hypothèse ?
La surdité, on ne parle que de... Ouvrez l'actualité.
Mais comment l'expliquez-vous ? Pourquoi est-ce que vous... ce diagnostic que vous faites de la surdité française ?
Je l'explique par le fait qu'il n'y a pas de musique, de cours de musique. Vous savez, en Allemagne, tout le monde fait de la musique, enfin, depuis très longtemps. Bon, c'est passé dans les mœurs. En France, non, très peu. Enfin bon, voilà. Donc après ça, vous faites une déferlante américaine de rock, de musique pop, etc. C'est fini. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de bruit, mais il y a plus de musique à proprement parler. Voilà. Voilà pourquoi Mozart ressort de tout ça frais, léger et complètement actuel et porteur d'un espoir révolutionnaire.
Alors, actuel, on y reviendra, parce que vous commencez votre livre en disant Mozart est partout, dans les répondeurs téléphoniques, dans les taxis, dans les ascenseurs, il y a une espèce de...
Eh bien, il survit à ça, oui.
Oui, mais alors c'est ce qui est un sacré tour de force, parce que ça veut dire, mais on revient à la dimension populaire de sa musique, c'est qu'elle fonctionne en plus de sa beauté.
On peut la mettre en bruit de fond, en musac, si vous voulez, mais ça change pas. La révolution de Mozart, c'est d'abord, ça porte sur l'égalité entre les sexes. Et c'est ça qui est très important à voir dans sa musique et son comportement et son message révolutionnaire.
Dites-nous
c'est quelque chose. Non, mais comme les deux sexes doivent être à égalité. Alors on va ruser, on va s'amuser avec ça, mais il est le premier à dire au fond qu'il est aussi à l'aise dans le rôle d'homme que dans le rôle de femme. Mon amie Cecilia Bartoli rêve d'interpréter Don Juan, par exemple. C'est quand même étrange. Et elle me dit, Mozart, c'est inouï, c'est qu'il est aussi à l'aise avec les voix d'homme qu'avec les voix de femme. D'où vient qu'il soit aussi à l'aise des deux côtés? Donc il n'y a pas de séparation. On invente une séparation entre les sexes. On la martèle. Mais ça, c'est précisément très réactionnaire. La révolution, c'est l'égalité partagée.
Thank you.
L'ouverture des Noces de Figaro avec chef d'orchestre Théodore Currensis. Pourquoi cet opéra, écrit en 1786, trois ans avant la Révolution française, est-il le plus révolutionnaire de Mozart, Philippe Solers?
Oui, Beaumarchais, La Folle Journée, Les Noces de Figaro. Première scène, c'est en effet un mariage où on mesure l'espace du lit. Enfin voilà, ils sont tous les deux très bien, à égalité.
Qui tous les deux?
Oh, belle Figaro et Suzanne. Bon, donc, ils sont à égalité. Va venir le diable aristocratique qui va vouloir s'insérer.
Donc Figaro et Suzanne sont deux domestiques qui sont amoureux.
Oui.
Et leur employeur veut séduire Suzanne.
Voilà.
C'est comme ça commence la pièce.
Donc tout l'opéra, ça va être la façon de dénoncer cette prédation de pouvoir d'un aristocrate sur une servante. Bon. Et donc c'est quand même un opéra extraordinairement subversif pour l'époque. Il faut bien 1786. Nous ne sommes pas en 1789, 90, 91, 92, 93. Des droits de l'homme, les droits humains, etc. Puis au fond, peut-être que les citoyennes auraient le droit d'exister. C'est pas ce que la Révolution française a reconnu. D'ailleurs, il a fallu très longtemps. Mozart est très en avance. Il prend des risques. Il prend des risques et il va y avoir immédiatement une ferveur populaire sur cet opéra, mais pas à Vienne, à Prague.
Et donc la dimension révolutionnaire, elle est dans la remise en question d'un statut social avant l'heure. Elle est aussi, vous l'avez dit, on la trouve dans le fait qu'il s'adresse, enfin, pour la première fois, il prend en compte l'avis du public.
Mais le public se rend compte à ce moment-là, horreur, terreur qu'au lieu de leur présenter un opéra rempli de mythologie, de déesses et de dieux qui viennent pérorer ou chanter leurs airs, d'ailleurs de façon sublime, c'est très bien. Mais tout à coup, cette espèce de petit Mozart intranquille les représente leur intimité sur scène. Vous vous rendez compte?
C'est la première fois.
Mais oui, c'est la première fois. Trouvez-moi un autre opéra. C'est la première fois que vous savez, ça s'appelle Les Noces de Figaro, et vous pouvez le réécouter aujourd'hui avec un bonheur extrême qui prouve, et en même temps c'est très drôle, les situations sont extrêmement tendres et drôles, puissantes et drôles. Vous avez le chérubin.
Voilà, ce personnage qui est ni oui, homme ni femme, on en revient au
mon
caractère.
Mon cœur soupire la nuit, le jour, qui va me dire ce que là, bon, enfin, il faut faire jouer ça par une femme alors que c'est un garçon et que dont les femmes vont s'amuser, etc. Un peu qu'on cache dans un placard. Mais enfin, c'est extrêmement nouveau, extrêmement. Donc ça a plu. Mystérieux, parce que les airs sont faciles à retenir. Bon, voilà. Qui va me dire ça a été son coup d'éclat. 1786. Après, nous avons des choses qui commencent à devenir beaucoup plus profondes et tragiques.
C'est la première fois qu'il est profane aussi, dans ce texte.
Oui. Oui. C'est la première fois que vous avez l'annonce de ce qui va suivre, c'est-à-dire la Révolution. Et il a pris Beaumarchais, c'est-à-dire un texte français très suspect pour l'époque.
Pourquoi suspect?
Parce qu'il énonce, il énonce précisément ce qui va se passer. Beaumarchais n'était pas non plus quelqu'un de conforme à la cour, non.
Alors après Les Noces de Figaro suivront beaucoup, beaucoup d'autres œuvres, hein, puisque Mozart a encore quelques années avant de mourir à 35 ans. Et on trouve notamment, si on quitte le domaine de l'opéra un instant, Philippe Solers, une musique qui vous tient particulièrement à cœur, qui est un quintet.
Oui.
Un quintet avec clarinette. Et vous dites que la clarinette, c'est l'instrument fétiche de Mozart.
Oui, Mozart s'exprime souvent. Il a un grand ami qui s'appelle Klader, qui était clarinettiste, pour lequel il a écrit non seulement ce quintet sublime en la majeure avec clarinette, qui est que j'ai utilisé dans un livre qui s'appelle Le cœur absolu, comme hymne d'une petite société secrète qui a ça comme hymne, et puis un concerto pour clarinette, etc. Et dans la Clémence de Titus, si vous écoutez la partie clarinette, vous savez que c'est l'instrument préféré de Mozart.
Pourquoi ?
Dans le haut.
Pourquoi
et le bas.
C'est le préféré ?
Parce qu'on peut le moduler. Vous écoutez tout à l'heure la voix d'Elisabeth Schwarzkopf. Mmh. Vous avez vu comme elle est... Parce qu'elle a une vie de sa voix qui est très aiguë, où elle peut aller très bas hein, dans le son. Avec la clarinette, vous pouvez faire ça. Donc, c'est une voix.
En voyage, par exemple en voiture ou après un bon repas en promenade ou la nuit quand je ne puis dormir, c'est alors que les idées me viennent le mieux, qu'elles jaillissent en abondance. Celles qui me plaisent, je les garde en tête et sans doute je les fredonne, à part moi, à en croire du moins les autres personnes. Lorsque j'ai tout cela bien en tête, le reste vient vite, une chose après l'autre. Je vois où tel fragment pourrait être utilisé pour faire une composition du tout, suivant les règles du contrepoint, les timbres des divers instruments, etc. Mon âme alors s'échauffe. Du moins quand je ne suis pas dérangée. L'idée grandit, je la développe, tout devient de plus en plus clair et le morceau est presque achevé dans ma tête, même s'il est long, de sorte que je puis ensuite, d'un seul regard, le voir en esprit comme un beau tableau ou une jolie personne. Je veux dire qu'en imagination, je n'entends nullement les parties les unes après les autres dans l'ordre où elles devront se suivre. Je les entends tout ensemble à la fois. Instant délicieux, découverte et mise en œuvre, tout se passe en moi comme dans un beau songe, très lucide. Mais le plus beau, c'est d'entendre ainsi, tout à la fois. Quel texte, Philippe Solers, alors, est-ce un témoignage de Mozart? C'est ainsi que Heidegger le présente. Il rapporte ce texte dans son livre Le principe de raison, disant qu'il s'agit des propos de Mozart. Est-ce le cas ou pas?
Ah, wow. Écoutez, là, vous avez l'adverbe clé et simultanément. Donc,
parce qu'il nous délivre les secrets de sa création.
Voilà. Je vois... J'entends et je vois en même temps. Et non seulement j'entends et je vois, mais je dispose et je compose et je retiens tout. Donc il faut une mémoire, la mémoire hypermnésique, Mozart, hein, attention. Donc et non seulement tout se passe dans sa tête, mais et pendant qu'il est dans sa tête, ses sens fonctionnent à plein régime, et ce qu'il entend, ce qu'il fredonne, souvent, les gens me surprennent en train de fredonner, oui, c'est ça. J'attrape un air, voilà. Et donc, en même temps, je vois la composition, je vois comme une... C'est un dramaturge, il y a deux très grands dramaturges dans l'histoire humaine. Hein, dramaturge vraiment, c'est Mozart et Shakespeare. On ne comprend pas plus comment Shakespeare a pu écrire tout ce qu'il a écrit que Mozart écrivant autant de chefs-d'œuvre dans si peu de temps.
Je dis dramaturge, mais il prend l'exemple du tableau. Il dit c'est comme un beau tableau, ce serait plus un peintre.
Oui, je suis peintre, je suis sculpteur, je suis dramaturge, je suis théâtre. Le monde entier est un théâtre dont je suis le régisseur. Le monde entier est un théâtre, ça du Shakespeare, le Globe.
Nous ne sommes que des acteurs.
Le Globe est un théâtre. Nous sommes en train de faire du théâtre, chère Adèle. Vous êtes un personnage de théâtre et moi aussi. Et c'est comme ça la vie intéressante. Voilà. Voilà ce que veut dire Mozart. On voit, on entend en même temps et on met en scène. C'est pour ça que la radio est formidable. Très bien. Vous voyez. On nous voit là. Sûrement. J'espère.
Mais voit-on autant que Mozart voyait, il dit « j'entends » et donc « je vois », puisque pour lui, il fait un parallèle entre les deux, tout à la fois. C'est comme si, alors on s'interroge souvent sur le travail du compositeur qui doit écrire les différentes partitions des différents instruments, et lui, en fait, il voit tout sous forme d'ensemble. S'il fallait qualifier son génie, c'est peut-être ça.
C'est pour ça que les autres compositeurs, à ses yeux, se traînent. Ils n'arrivent pas à voir tout à la fois. Et alors, il voit morceau par morceau. C'est évidemment, les êtres humains sont comme ça. Et ils ne voient pas tout à la fois. Ils sont dans une intrigue et il faut qu'elles se suivent. Vous voyez, pas qu'elles dérapent, pas qu'elles produisent des décalages.
Cette simultanéité du tout fait penser à un point de vue divin qui regarderait sa création et qui a pensé à la fois chaque détail et chaque agencement. C'est un peu le dieu de Leibniz, en fait, qui regarderait son monde quand Mozart parle de son travail.
Oui, oh, c'est bien que vous me parliez de Leibniz. J'adore ce philosophe.
On va se quitter avec, alors, pardonnez-moi le sacrilège, hein, mais une version contemporaine de Mozart, puisque vous le dites, voilà, Mozart est partout, Mozart inspire encore aujourd'hui les compositeurs. Il y a énormément de compositeurs qui s'inspirent de Mozart. En voici une version, la version d'une petite musique par The Swingles Sisters. Merci beaucoup Philippe Solers d'être venu nous faire part de votre amour pour Mozart ce matin.
Merci à vous.
On peut lire Le Mystérieux Mozart, c'est le titre du livre que vous lui avez consacré, en folio par exemple, Gallimard. On peut lire aussi alors votre dernier livre, Une conversation infinie avec Josiane Savigno, qu'on trouve aux éditions Bayard. Et puis paraîtra en mars prochain votre nouveau livre qui s'appelle Le Nouveau, aux éditions Gallimard.
C'est très nouveau.
Petite musique qui nous conduit directement au journal de la philo sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de deux livres.
Deux livres pour un seul sujet. Un sujet incontournable, un sujet toujours d'actualité, un sujet que l'on rencontre chaque jour en faisant la queue à la boulangerie, dans les transports en commun, avec ses collègues au travail, avec sa famille même. Un sujet donc que l'on expérimente au quotidien. Un sujet pourtant trop peu ou pas étudié par la philosophie. Ce sujet, c'est la connerie.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ?
Ouais !
Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons?
Oui!
Que les émirs, la police et l'armée sont des cons?
Oui!
Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons?
Oui!
Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Oui!
Jusqu'à aujourd'hui, la connerie était plutôt l'affaire des humoristes, du cinéma ou de la littérature, ou tout simplement une affaire banale du quotidien. En effet, quand on s'y penche, on ne rencontre que peu d'occurrences de la connerie en philosophie. Alors certes, Lacan a pu dire, je cite, « La psychanalyse est un remède contre l'ignorance, elle est sans effet sur la connerie », mais on peine à trouver d'autres mentions de ce type. Jusqu'à aujourd'hui donc, puisque paraît en ce 23 janvier « Que faire des cons » sous-titre pour ne pas en rester un soi-même de Maxime Rovert, et qu'un ouvrage collectif est paru en octobre dernier sous le titre « Psychologie de la connerie ». Alors dès l'introduction, ces deux livres s'accordent à reconnaître cette absence d'études sur le sujet, car jusqu'ici c'était plutôt la bêtise, la sottise, l'idiotie ou l'envers de la connerie, l'intelligence qui avait mobilisé les penseurs. Pourtant, il faut le dire, La connerie est un vrai problème, autant que l'existence de Dieu, que les fondements de la démocratie ou que l'essence d'une œuvre d'art. C'est un problème qui entretient sûrement des liens d'opposition avec l'intelligence et des voisinages avec la bêtise, mais qui mérite un traitement philosophique à part entière.
Tant qu'a fait tant et qu'a quitté tant, quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vos plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Qu'est-ce que la connerie? Comment la définir? Comment l'appréhender? C'est une première manière d'approcher philosophiquement la connerie. Et la réponse est forte d'enseignement. Comme le dit la chanson, la connerie est de tout temps, partout, protéiforme, la chose la mieux partagée du monde. Concept plastique, la connerie est donc universelle. On perd ainsi notre temps à vouloir l'enfermer dans une définition abstraite. La connerie, c'est avant tout des cons. Mais alors, deuxième question, qui sont ces cons? Petits, grands, connards, connasses? Cette réponse se trouve dans l'ouvrage collectif Psychologie des cons. Dans un des articles, le philosophe Pascal Angèle distingue les degrés de la connerie, de la bêtise brute au saut distingué qui résonne trop. On le voit, là encore, la connerie est multiforme et revêt autant les atours de l'absence de raison que ceux d'un excès de raison. Et c'est là son principal problème, la connerie existe et le temps ni la raison ne font rien à l'affaire. On pourrait se demander pourquoi y a-t-il de la connerie plutôt que rien, mais cela résoudrait-il le problème? Non, il y aura toujours des cons.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça.
Le problème, de la connerie est donc qu'elle est là et que le savoir n'est pas forcément une solution à ce problème. La leçon de Maxime Revert dans son essai est donc de faire avec les cons et les connes, puisque vous le soulignez, Philippe Solers, sachant qu'en plus, on est toujours le con de quelqu'un. Mais comment donc faire avec et avec soi? Eh bien, à cette troisième question, d'aucuns diront qu'il faut prendre les choses avec sagesse, qu'il faut respirer un grand coup et surpasser ce moment difficile où un con ou une conne nous emboutit la voiture, nous a grillé dans une file d'attente ou nous fait une leçon sur la vie. Mais ce sursaut est-il si sage? Vouloir dépasser la connerie, l'arrêter, l'éradiquer, c'est se prendre pour Dieu, c'est se penser au-dessus, c'est faire du surgissement du con dans son quotidien un moment absolu. On est loin d'une sagesse humaine. Alors si faire avec les cons et les connes, c'était au final faire vraiment avec, c'est-à-dire se laisser aller à l'émotion face au con, ne pas le juger ni lui faire comprendre qu'il est con, mais tout simplement accepter que la connerie est d'abord une question d'interaction et que ça, on ne pourra jamais s'en passer.
Ça vous inspire, les cons, Philippe Solers?
Pardon?
Ça vous inspire?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Et je trouve que Géraldine a été parfaite de rajouter con avec con.
Grâce à votre suggestion, Barité est obligée à vous aller en entendre parler. Hein.
Voilà.
Géraldine, dites-nous les deux livres que vous nous conseillez.
Que faire?
Une très bonne chronique.
Merci. Ah, que oui, faire
connerie,
des cons?
La connerie est à nos portes.
Dites-nous, Géraldine.
Oui. Que faire des cons? Alors, je rajoute et des connes par Maxime Revert. C'est aux éditions Flammarion et Psychologie de la connerie sous la direction de Jean-François Marmion aux éditions Sciences Humaines.
Votre chronique très intelligente à réécouter sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission, Clément Daté qui était à la prise de son aujourd'hui, Shems Odal à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la fin de notre série sur Mozart, philosopher avec Mozart. Demain, nous serons en compagnie du philosophe André Tuboeuf et on emmènera Platon à l'opéra. Vous verrez, la rencontre entre Platon et Mozart est des plus fécondes. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, pour réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain, 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.